le 81e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 28 au 30 septembre 2021, en direct du parc des expositions de Bordeaux-Lac, en partenariat avec Procivis, en direct sur Radio Imo et Radio Territoria.
Eh bien, ce sera notre dernière émission de la journée. Voilà. Avec une journée extrêmement remplie et beaucoup de succès pour ce 81e congrès de l'Union sociale pour l'habitat, blindé de monde. Alors là, je peux vous le dire, ça a été vraiment symbolique. C'est intéressant parce que quand on demande aux gens pourquoi ils se rencontrent, effectivement, ils avaient vraiment envie de bouger, de se rencontrer. Ça faisait deux ans pratiquement qu'ils ne s'étaient pas vus. 17h52, on est toujours en direct sur Territoria et sur Radio Imo. On va parler construction, innovation et on va parler aussi de la politique du logement lui-même, avec deux grands professionnels de l'immobilier et de la construction qui sont sur le plateau. J'ai le plaisir d'accueillir, je crois que c'est une première sur Radio Imo, Maud Collignon. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Je vais très très bien. Ravi d'être là, en effet, après ces deux ans de pandémie, confinés chacun chez soi.
Ça fait plaisir, hein ? Plus
ça
de visio, plus de call. Voilà, on se voit et on fait. Voilà. On n'en est pas au point de se faire des câlins, mais on attendra un peu, mais c'est déjà pas mal qu'on puisse déjà se revoir. Maud, vous êtes directrice de la construction pour l'immobilier 3F en Ile-de-France.
Tout à fait.
Merci d'être avec nous. On va voir le point de vue de l'innovation et de la construction. D'ailleurs, je rappelle que demain, on a une table ronde sur la construction aussi, à travers une table ronde organisée par nos amis de Calcia Ciment, filiale de Heidelberg Cement, sur justement la transition énergétique et comment la construction peut être aussi facteur ou vecteur d'un impact réduit sur l'environnement, par exemple. C'est bien le sujet du jour. Un grand professionnel de l'immobilier aussi qui est avec nous pour donner sa vision, effectivement, du logement aussi et des problématiques qui en découlent. Parce que forcément, logement, il faut bien loger les Français dans ce pays. Il est directeur général adjoint de Citia Immobilier. Stéphane Glucksmann est avec nous.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va, Stéphane ?
Oh bah, super bien. Première participation au congrès. Donc, beaucoup de découvertes, un monde un tout petit peu différent de celui auquel on est habitué de frayer, celui de l'immobilier pur, résidentiel. Et là, effectivement, un monde un peu différent, mais passionnant.
Alors,
passionnant.
Je trouve extrêmement intéressant de croiser vos points de vue entre vous, la vision de la construction que vous avez, et le gros, j'allais dire, administrateur de biens que vous êtes, parce que je rappelle que Citia, excusez-moi, c'était peut-être un lapsus révélateur. Citia aujourd'hui s'impose comme un acteur aujourd'hui déterminant, majeur dans le paysage immobilier français, Stéphane.
Oui, en fait, Citia fait partie d'une structure qui s'appelle Arche. Arche est aujourd'hui le premier opérateur européen dans le monde de l'administration de biens, puisque à travers les différentes marques que nous avons, c'est-à-dire Citia bien sûr, mais Century 21, Guy Hoquet ou La Forêt, nous sommes aujourd'hui le premier opérateur sur ce métier.
Alors, premier opérateur, en sachant que vous avez une particularité aussi, c'est que vous avez une empreinte territoriale très délocalisée. Donc c'est très intéressant parce que vous pouvez faire remonter du terrain, finalement, de territoire en territoire, malgré l'hétérogénéité des actifs immobiliers, une vision très claire de la maîtrise des usages, des besoins des Français, justement. Je vais commencer par vous. Aujourd'hui, Stéphane Glucksmann, est-ce qu'on a un vrai sujet sur l'offre de logement ancien, l'offre de logement pour les locataires, mais surtout aussi sur le logement neuf ? Aujourd'hui, la pression démographique est telle qu'à un moment donné, il faut résoudre cette équation. Quand on voit aujourd'hui l'Union sociale pour l'habitat, qui est un gros acteur engagé pour le logement, qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que ça vous donne des inquiétudes ? Surtout dans la perspective de ce débat présidentiel qui s'annonce, où la politique du logement force est de constater que dans le programme qui est présenté par certains candidats déclarés, on ne peut pas dire qu'il y ait une politique du logement très ancrée dans leur programme, hein, quand même.
C'est pas vraiment nouveau, en fait. Au risque de paraître un peu politiquement incorrect, mais ça, c'est ma marque de fabrique. Le logement, c'est pourtant le principal souci des Français, se loger correctement, et pour autant c'est l'éternel oublié des programmes politiques. Souvenez-vous quand même, sur le premier gouvernement Macron, on n'avait même pas de ministre du logement.
Très juste.
Donc ça, c'est quand même signe que l'on oublie les Français et le logement des Français.
Mais qu'est-ce qui fait, parce que je me mets à la place d'un politique, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on n'a pas cette prise de conscience avec cette pression démographique ? Clairement, on va parler tout à l'heure de construction et d'innovation, etc. On a besoin de construire et d'absorber ce flux. C'est 160 000 personnes à loger de plus par rapport au flux démographique français. On a du mal à y voir clair, là.
Je pense qu'il faut ramener, alors j'ai une vision là-dessus, je pense qu'il faut ramener la politique du logement au territoire. Ce sont les territoires qui doivent reprendre la main. Le politique très centralisé, parisien, qui, dans sa bulle, ne voit que les immeubles haussmanniens et sa vision du logement est trop restrictive. La problématique du logement, elle est nationale. Et vous le disiez tout à l'heure, notre vision très territoriale, puisqu'aujourd'hui, rien que sur l'empreinte Citia, on a plus de 200 cabinets répartis en France. Donc on est présent partout. Et on le ressent bien. On sent aujourd'hui... On n'a jamais eu aussi peu de logements vacants. On est en dessous des 2% aujourd'hui de logements vacants France entière. Avec des territoires plus compliqués que d'autres, sur lesquels on va monter
moins
à 6-7%.
C'est considérable.
Donc aujourd'hui, il y a une tension. Il y a une tension certaine sur le logement. On ne construit pas. On ne construit pas assez. On ne construit plus. Et en parallèle de ça, on va sortir des centaines de milliers de logements du marché avec, alors il y a une petite prise de conscience récente sur le DPE, mais ce qui a été fait sur le DPE va encore mettre du sable dans les rouages du logement en France.
Alors, concevoir le logement, c'est aussi concevoir la façon, dans une vision urbaine, de comment on va construire et comment on va accompagner justement la construction, j'allais dire, d'un cercle vertueux. On en a beaucoup parlé tout à l'heure dans ma conférence que j'ai animée avec le Crédit Agricole Immobilier qui s'appelle « La reconstruction de la ville sur la ville ». Mm-hmm. La construction, il faut être très clair, c'est construction bashing. Hein. Je m'explique. Aujourd'hui, quand on parle de construction, tout de suite, ce qui vient à l'esprit, une espèce de logorée qui remonte, qui n'est pas tout à fait juste. Hein. C'est le deuxième émetteur de carbone après le transport. Donc forcément, la construction, ben, je la regarde d'un œil un peu particulier. Clairement, avec la circulaire ZAN, zéro artificialisation nette, on dit voilà, c'est la limite de l'étalement urbain. Comment on fait, Maud Collignon, quand on est justement, vous, avec cette vision de la construction, mais aussi de l'innovation, pour adapter le discours à la maîtrise des usages et d'un contemporain qui ne veut plus clairement, en fait, de ces constructions que peut-être dans les années 80, 90, ou peut-être dans les années 70 avec un urbanisme triomphant, a eu un impact délétère sur le climat. Ça, personne ne le conteste.
Alors, moi déjà, j'adhère complètement à lutter contre l'artificialisation des sols. Je pense que,
ah oui.
En effet, hein, construire la ville sur la ville, c'est le
étalement urbain.
Et je dirais, non, l'étalement urbain, c'est pas trop mon dada non plus. Et c'est clair que, voilà, on n'a pas attendu chez 3F les dernières annonces il y a quelques mois, enfin l'année dernière, sur l'artificialisation des sols. On est déjà vigilant par rapport à ces sujets-là. Je dirais qu'en effet, il faut être astucieux parce que d'un côté, on a des objectifs de production qui sont énormes. Et là, je parle en particulier de l'Île-de-France, puisque bon, on le sait, il y a en effet une pénurie plutôt de logements qui est énorme en ce qui concerne le logement social. Et d'un autre côté, il faut qu'on puisse arriver à construire, sachant que c'est de plus en plus difficile, en particulier les permis de construire qui sont systématiquement attaqués et effectivement une politique chez certains maires de réduire le plus possible la construction. Alors comment on fait ?
Et pourtant, il faut qu'ils logent leurs habitants. Hein,
il faut loger les habitants. Oui. Alors comment on fait ? Par exemple, on va transformer des immeubles de bureaux en logements. J'en parlais ce matin lors d'une table ronde.
Vous y croyez, vous ?
Ah ben, on y croit, c'est qu'on le fait. Là. Chez 3F, on a à peu près 450 logements qui sont soit livrés, soit en cours de chantier. Environ 200 qui sont en développement. Donc,
vous avez transformé des bureaux en logements.
Complètement.
D'accord. Est-ce que vous avez déconstruit ?
Qu'est-ce que vous entendez par déconstruire ?
Je veux dire, l'immeuble en lui-même, qui était conçu comme pour du bureau, est-ce que quand on le transforme, il faut le déconstruire, le déposer les matériaux, ou est-ce qu'on peut garder la façade, etc. Non, parce que, je vous explique, on nous a posé une question à un auditeur qui est très juste d'ailleurs, prosaïque, mais il faut lui répondre. Il dit la chose suivante, il dit, ok, c'est top, on transforme des bureaux en logements. Mais en fait, en réalité, on détruit, on reconstruit.
Non, on ne détruit pas du tout.
Et en fait, la nuance, les peu de personnes la font réellement. Est-ce qu'on parle de transformation et de quoi parle-t-on ? Et est-ce qu'on peut parler aussi en même temps, parce que ce n'est pas opposable, on peut déconstruire pour reconstruire ?
Alors, sauf que si on devait déconstruire, voire démolir pour reconstruire, on n'aurait pas nécessairement les mêmes droits à construire. Donc déjà, c'est le premier sujet. Alors, dans la transformation de bureau en logement, on est sur de la transformation. Donc ça veut dire qu'on ne va pas faire de travaux de gros œuvres ni de travaux de fondation. On peut enlever partiellement. Alors, en effet, souvent, les façades, elles vont être retirées. On va essayer de garder le plus possible certaines, je dirais, la structure propre de l'immeuble, donc les poteaux poutres par exemple. Donc ça reste, je dirais...
Donc c'est l'ossature du bâtiment.
Oui, hein, et ce sont des travaux qui du coup, vont avoir une faible empreinte énergétique par rapport à une construction neuve classique. Donc c'est bien plus vertueux. Et puis par rapport au sujet de permis de construire dont je parlais tout à l'heure, sur ce type de programme, on a en général pas de recours ou très peu. Donc ça nous permet également d'être plus agile.
Alors pas de recours ou très peu, parce que les élus locaux sont très branchés sur le coup. Hein.
Ah bah, parce que... Parce que concrètement, les riverains ne le voient pas. L'immeuble est déjà là. En général, il est pas tellement en bon état. Ça va être un immeuble... Nous, en ce qui nous concerne, c'était plutôt des immeubles des années 70-80 qui étaient quand même pas très... Pas de manière un peu démodée, je dirais.
Je comprends que vous ayez enlevé les façades. Hein. Ça, je comprends.
On a eu des très beaux prix à ce sujet. Donc, on en est très fiers. Après, d'autres astuces qu'on peut avoir pour arriver à construire davantage. Je fais une aparté ce matin, monsieur le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, a démarré la plénière en évoquant l'importance chez les bailleurs sociaux de rester maître d'ouvrage. Et je pense que c'est en effet essentiel, sauf que ça devient de plus en plus difficile pour nous, puisque en effet, une partie de la production, c'est le cas chez 3F, hein, 50% de la production est réalisée en maître d'ouvrage, l'autre moitié en VFA. Nous achetons des produits auprès des promoteurs, nos amis les promoteurs, mais sur lesquels on n'a pas vraiment la main au niveau de la conception. Ce qu'on essaie de faire aujourd'hui pour pouvoir trouver des astuces, c'est qu'on essaie de développer également la co-maîtrise ouvrage. Donc on va travailler avec des promoteurs, on achète un foncier ensemble, on va déposer un permis de construire ensemble avec le même architecte, mais chacun reste maître de son produit. Et nous, pour nous, c'est essentiel, en particulier sur la qualité d'usage, la qualité du logement, de pouvoir vraiment maîtriser de A à Z ce que nous produisons.
Alors c'est intéressant parce que ces nouvelles formes d'habitat, c'est-à-dire cette transformation des mobiles en logement, vont devoir être gérées.
Oui,
gérées par des administrateurs des biens, mises en règlement de copropriété par des syndics de copropriété. Est-ce que pour vous, par exemple, en termes de sourcing, de business, il n'y a pas de gros mots dans tout ça, est-ce que c'est une belle alternative pour vous, pour le logement résidentiel, l'administrateur et le syndic que vous êtes ?
C'est une excellente effectivement perspective. Pour nous, c'est très intéressant. Mais ce que je vois en amont, c'est qu'on fait des raccourcis. Ça va nous permettre d'aller plus vite et d'obtenir et de résoudre. On ne résoudra pas qu'avec ça le problème du logement, du non-logement. Mais par contre, on va accélérer parce qu'entre effectivement le repérage d'un foncier, les études, toute la phase de permis de construire, de recours et tout cela, il faut des années et des années pour arriver à livrer un logement à un occupant. Là, avec ce système de transformation...
On va plus vite.
On va aller beaucoup plus vite.
On va plus vite, Maud ?
Ah oui, on va plus vite. On est très, très vite.
Un immeuble pour transformer, combien de temps ? Juste pour vous donner une idée.
L'immeuble de Charenton, 90 logements. Donc, c'est quand même un gros morceau. On a eu 12 mois d'études et 16 mois de chantier.
Pas mal.
C'est excellent.
C'est
excellent. Et des verrues, parce que ce sont des verrues dans l'environnement. On évoquait les façades tout à l'heure. Il y en a partout. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'effectivement, il y a un potentiel énorme. Il y a un potentiel énorme pour demain pouvoir. Et puis, ce sont des nouveaux logements qui seront adaptés. Et pour nous, c'est une vraie source.
Encore faut-il en faire l'acquisition, parce que quand même, une partie de ce parc-là de bureaux est dans le parc privé, hein, faut le rappeler. Alors, c'est vrai que le bon signal, c'est qu'il y a pas mal de foncières. Et donc, du coup, effectivement, dans les partenariats, je pense que vous aussi, vous devez vous rapprocher de ces opérateurs qui, finalement, sont quand même très heureux de requalifier leurs actifs. Hein.
D'autant que le monde de l'entreprise, du siège social d'entreprise et des locaux est en train d'évoluer et que la crise que l'on vient de vivre remodifie absolument tout ça. Le nombre d'entreprises... Oui. Qui ont revu à la baisse toutes leurs prétentions.
Ça veut dire qu'ils ont besoin de moins de mètres carrés, pensez.
Bien sûr, oui, ils ont revu leurs prétentions.
Ah, d'accord.
Okay. Nous, on a un regard, puisque nous avons la particularité d'être propriétaires de 60%, entre 60 et 70% de nos locaux d'exploitation, et dans lesquels que l'on refait complètement à neuf. constructeurs, nous ne sommes pas promoteurs, nous rénovons nos locaux de à travers notre foncière. Eh bien, aujourd'hui, on gagne des dizaines et des dizaines de mètres carrés, non pas grâce au télétravail, mais grâce à la digitalisation qui nous permet de faire des économies sensibles puisqu'on a pu à stocker.
Alors, ce que vous dites est juste pour des activités tertiaires dans lesquelles vous avez la possibilité aussi le télétravail chez vous, c'est quelque chose qui se pratique
Pas trop. Nous, on est plutôt travail que télé.
L'un n'empêche pas l'autre.
Maud, ça c'est la punchline de Stéphane Glucksmann. Il est bon là, dans tout ça. Non, c'est pas mal. Justement, en matière d'innovation et de construction, par exemple, les formules ciment, par exemple, les formules béton, ont considérablement évolué, avec le réemploi effectivement de matériaux. Alors, je vais pas dire déconstruits, Est-ce que justement, vous, en matière de construction et de rénovation et de transformation, vous utilisez les matériaux que vous avez sur le chantier?
Alors oui, le réemploi, oui.
Le cercle vertueux qui permet, par exemple, de travailler sur une économie circulaire, mais aussi de relocaliser des activités de proximité, notamment des métiers. On en a parlé ce matin, c'était hyper intéressant. Des métiers qui n'auraient pas paru comme ça d'emblée être réellement local. Hein. Par exemple, j'ai vu un chantier sur lequel, par exemple, les remblais étaient utilisés pour faire des briques, voilà, avec une briqueterie qui était à 300 mètres. Je trouve ça top.
Alors, tout à fait. Nous, on est complètement dans cette mouvance-là. Hein. Parfois, même on l'a fait sur des opérations qui sont déjà livrées et où, effectivement, les matériaux, enfin, les produits des terrassements ont été réutilisés pour faire après de la voirie interne, les VRD, etc. Donc, on est complètement dans cette logique de réemploi. Alors, c'est plus facile quand on est sur une restructuration d'un immeuble, comme ça a été le cas sur des transformations de bureaux en logement. Mais on le fait de toute façon, dès qu'on peut, dès qu'on doit démolir un bâtiment, on regarde. Oui, c'est très important pour nous de regarder cela. Après, concernant tout ce qui est, vous évoquiez à l'instant, je dirais les nouveaux bétons et les nouveaux ciments. Alors, en effet, de toute façon, pour répondre, je dirais, aux objectifs de développement durable, il y a deux solutions en termes de matériaux, soit le béton bas carbone qui est en train de se développer,
et qui marche bien, et qui fonctionne bien, ouais, c'est vrai.
Tout à fait, soit l'utilisation des matériaux biosourcés.
Absolument.
Sur le béton bas carbone, nous venons d'expérimenter avec Hoffmann Green.
Ouais. Biosourcé, éco-sourcé, ouais, et géosourcé. C'est important d'ajouter.
Ce type de béton, donc là c'était vraiment de l'expérimentation, on a protocolé, voilà, ça s'est décidé en deux heures après une réunion, on a dit on y va banco, on va tester ça. Ça a tellement bien marché qu'on est en train on vient de le mettre en place sur un appel d'offres qui est en cours, et on va l'initier a priori sur 100% de l'opération sur un programme de 70 logements à Celles-Saint-Cloud. Donc on en est vraiment très fiers, mais on a également recours aux matériaux biosourcés comme le béton de chanvre par exemple, le bois, ça c'est tout le monde connaît, mais le béton de chanvre, on a par exemple réalisé et livré dernièrement le plus haut immeuble d'Europe en béton de chanvre à Boulogne. Donc, c'est un petit immeuble, c'est qu'une vingtaine de logements, mais c'est quand même le plus haut immeuble en Europe. Voilà, donc ça, ce sont des filières qui sont très intéressantes où on peut être également amené en effet à utiliser les ressources locales, et on est en contact avec des usines, des fournisseurs pour voir ce qui peut être mis en avait. C'est très important, et cela pour nous, bailleur social, a une incidence directe après sur l'empreinte carbone, certes, donc, par rapport à la planète, mais également sur les charges des locataires. Donc, pour nous, c'est très important aussi de pouvoir bien construire des immeubles pérennes à faible empreinte énergétique.
Charge de locataires, ça vous parle, hein, c'est clair.
Oui,
parce que vous, in fine, c'est intéressant votre vision à tous les deux. Parce que, in fine, c'est vous qui administrez derrière. C'est vous le syndic.
C'est nous qui allons gérer la vie, les matériaux, la suite, mais également la vie du bâtiment et la vie des occupants. Mais nous sommes en train de former. Aujourd'hui, on lance nos formations de nos gestionnaires de copropriété sur l'usage des nouveaux matériaux. C'est-à-dire que gérer des immeubles en bois, on parlait de bois, c'est pas courant pour un gestionnaire de copropriété. Il va falloir, ça va créer de nouvelles obligations, certaines pathologies qu'on ne connaissait pas. Et on est en train de former nos collaborateurs à ces nouveaux matériaux, ce que l'on n'aurait pas imaginé il y a encore quelques années, où, basiquement, un gestionnaire de copropriété, du moment qu'il faisait ses assemblées générales, il était heureux, quoi.
C'est clair. Dernière question. Bon, c'est une question qui est clairement effectivement orientée sur le plan politique. On est confronté à une vraie problématique liée à l'aménagement du territoire. Parce qu'effectivement, on a l'impression que sur des zones, qu'on dit, alors j'aime pas trop le terme zone tendue, mais allez, des grosses métropoles dans lesquelles il y a une pression en termes de logement. On voit bien qu'il va falloir trouver des alternatives. Question, est-ce que l'alternative d'utilisation de bâtiments un peu en déshérence dans des villes moyennes, avec effectivement le fait que beaucoup de personnes, je prends juste le cas de Paris par exemple, qui perd 55 000 habitants sur les 5 dernières années, hein, quand même, ce qui est pas neutre hein, en tant que tel. Est-ce que c'est une bonne alternative pour le monde de la construction? Parce qu'il faut aussi construire. Il faudra forcément abandonner et construire. Alors, clairement, sur des zones tendues, il n'y aura pas d'étalement urbain, mais sur des zones intermédiaires, est-ce qu'il y a des alternatives possibles, Maud Collignon?
Alors, moi, je pense qu'il faut, de toute façon, adapter le besoin au territoire. Donc, effectivement, en Ile-de-France,
ça reste
en
une
Paris,
d'accord, c'est clairement
extrêmement tendu. Et...
D'accord.
Mais nous, si je prends l'exemple et ce qu'on produit chez Immobilier 3F, on peut effectivement, alors ça va de la Dent Creuse en première couronne dans le Val-de-Marne, où on va faire un petit immeuble de 12 logements. Ça va effectivement, ça peut être une intervention sur une ZAC, où là ça va être un immeuble de 100 logements, mais c'est également construire 4 logements dans un centre-bourg ancien au fin fond de la Seine-et-Marne. Donc c'est vraiment adapter, être au service des territoires et répondre à leurs demandes, non, et ça, rendre possible.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que faut quand même bien faire comprendre à ceux qui nous écoutent que c'est une classe d'actifs qui n'est pas modélisable et qui est hétérogène par nature. Il y a des territoires qui s'adaptent, d'autres qui ne s'adaptent pas. Il faut 4 unités, il en faut 10, il en faut 20. C'est une réalité. Vous, de votre côté, qui êtes-vous finalement sur des chaînes métiers qui sont finalement en aval de ces opérations, comment vous voyez les choses à terme? Est-ce qu'on arrivera finalement à une gestion saine en administrateur de biens, syndic de copropriété, qui vise cette fameuse neutralité carbone qui fait qu'à un moment donné, on aura une gestion finalement assez consensuelle dans cette urbanité qui finalement va enlever la voiture du centre-ville, qui va pratiquer une mobilité douce, qui va essayer de créer du lien. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité, quoi, je veux dire, clairement.
Alors, l'homme dit c'est une réalité. Le professionnel va dire c'est un mythe aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, ce qui conduit nos clients, parce qu'en fait, l'administrateur de biens, ce n'est pas son argent.
Ben oui.
Nous sommes moteurs, nous sommes force de proposition, mais le décideur, c'est notre client, c'est le copropriétaire, c'est
bien
le
sûr.
Propriétaire qui a un immeuble avec 5, 10, 15 logements, ou même ne serait-ce qu'un logement. C'est lui qui va guider par rapport à l'argent, parce que ça reste l'argent, et que, effectivement, si on n'a pas une politique un petit peu tendue et qui pousse les gens à faire les choses, on va avoir du mal. Et on le voit bien, la rénovation énergétique, elle est bien plus avancée dans le monde social. Je le découvre encore, je ne le
découvre
pas.
C'est clair.
Il y a des choses qui sont lancées. Vous êtes bien plus en avance que dans le parc privé.
Mais oui.
Dans le parc privé, ça ne fonctionne qu'à coup de subvention.
Et puis parce que la copropriété est très éclatée.
Parce que la copropriété est éclatée.
Prise de décision multiple,
parce que,
bien sûr.
Parce... on gère nos immeubles.
Mais oui,
alors,
voilà.
Là où on peut faire avancer les choses, c'est sur les néo-copropriétés. C'est-à-dire des copropriétés qui deviennent ou des immeubles qui deviennent en copropriété. Où là, tous nos copropriétaires sont égaux parce qu'ils ont acheté grosso modo tous en même temps. Ce qui est plus compliqué, c'est dans une copropriété où j'ai une copropriétaire qui est là depuis 25 ans, l'autre est là depuis 32 ans, celui-là est arrivé il y a 6 mois, et ils n'ont pas la même vision, les mêmes besoins, les mêmes ressources. Et donc, ils ne se projettent pas de la même façon. Parce que parler de rénovation énergétique à une personne qui a 75 ans ou 80 ans, c'est pas la même chose que de parler à quelqu'un. Ça n'aura pas le même écho que quelqu'un qui a 30 ou 35 ans.
Oui, c'est vrai, vous le disiez, vous gérez vos propres immeubles. Donc, effectivement, la rapidité de décision. Puisque, comme Stéphane nous dit, quand je suis syndic de copro ou quand je suis administrateur de biens, je dépends d'un tiers, qui est le tiers propriétaire ou le tiers occupant, qui a
le tiers aussi payeur, un surtout.
Et qui est le tiers payeur. Effectivement, cet éclatement fait que, effectivement, vous, dans votre domaine, vous allez beaucoup plus vite. Donc, du coup, quelque part, vous ouvrez un peu la voie. Ceci dit, comme vous le savez, la loi va prévoir en 2025, 2028 et 2034 une exclusion des lettres F, G et bientôt E.
Qui va entraîner effectivement un manque de logement. Une nouvelle tension. On est déjà en manque de logement aujourd'hui.
Mais
si
oui,
on exclut
Je suis d'accord avec
si
vous.
Si on exclut 20, 30, 40%
absolument.
Du parc privé,
absolument.
Ça ne va pas solutionner les choses.
Merci beaucoup à tous les deux pour ce regard croisé. C'est intéressant, hein, parce que finalement, vous êtes en début de chaîne et Stéphane est en fin de chaîne. Bon, je ne sais pas si c'est le bon terme. Vous êtes tous les deux participants à cette fabrique de la ville et cette base, on va dire, entre guillemets, harmonieuse de la gestion de cette urbanité, compte tenu des difficultés qu'ont les Français. Je rappelle quand même qu'il y a 5 millions de Français mal logés dans ce pays et plus de 2 millions et demi, je crois, inscrits sur des listes pour avoir un logement social depuis plusieurs années. C'est un vrai sujet de société. Merci Stéphane Glucksmann.
Merci Sylvain.
Directeur général adjoint de Citia Immobilier. Merci Maud Collignon. J'étais ravi de vous avoir sur le plateau. Vous êtes
Merci
directrice de la construction immobilière 3F en Ile-de-France. Voilà, c'est dit. Ça va tenir sur le petit podcast. Partagez, likez. C'est la fin. Bientôt 18h20, la fin de cette journée qui était riche en événements. On se retrouve dès demain, mais les programmes continuent bien sûr, full time, H24. Partagez, likez, toujours avec beaucoup de bienveillance. Prenez soin de vous et à demain.
Le 81e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 28 au 30 septembre 2021, en direct du Parc des Expositions de Bordeaux-Lac, en partenariat avec Procivis, en direct sur Radio Immo et Radio Territoria.